La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, la compagnie des auteurs file tout droit vers le grand siècle avec ce premier épisode d'une série consacrée à Jean de La Fontaine, série qui vous est proposée par Amélie Briand-Lejeune, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Chloé Casmarek et Anthony Thomasson. Il a su traiter des grands sujets humains par le biais de loups et de brebis, de cigales et de fourmis, de coqs et de renards, de chênes et de roseaux, de fous et de sages, et même de deux mulets. Ce faisant, il a montré que l'on pouvait penser tout en souriant et que la malice n'était pas le contraire de la profondeur. C'est d'ailleurs, à n'en pas douter, sur ce ton-là que nos invités en parleront jusqu'à jeudi. Jeudi justement, le poète Jacques Reda sera dans ce studio pour un exercice d'admiration. Il a publié il y a peu dans la collection Les auteurs de ma vie chez Buchet-Chastel un choix de ses textes préférés de La Fontaine. La veille, mercredi, nous aurons parlé plus généralement des fables avec Olivier Leplâtre de l'université Lyon 3. Enfin demain, avec Mathieu Berman, notre thématique sera celle des contes licencieux, partie un peu moins connue de l'œuvre de La Fontaine car occultée par l'enseignement scolaire. Nous verrons si ces contes sont aussi importants que les bien connues fables. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, je reçois Patrick Dandré, professeur de littérature française du 17e à la Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages sur Molière, dont il est spécialiste, mais aussi de textes sur La Fontaine, comme son essai « La fabrique des fables » publié en 1991 chez Klingsic, ou encore son « La Fontaine ou les métamorphoses d'Orphée » dans la collection Découverte Gallimard en 1995 et republié en 2008. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Alors, je crois que La Fontaine peut être dit parce que c'est un grand poète. Et quand La Fontaine dit « jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique », il a déjà du spleen de Paris, c'est déjà du Baudelaire. Hein? Ou bien quand il dit « un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie », c'est déjà du Mallarmé. C'est un grand poète, quoi.
Jean-Louis Barrault, en 1978. Bonjour Patrick Dandré.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tout comme Jean-Louis Barrault, diriez-vous que La Fontaine est un grand poète et j'ajouterais qu'il est poète avant tout.
Et il est poète dans le grand et dans le petit. Pas seulement grand poète, il est poète en tout. Ce qui veut beaucoup dire et peu dire, car à son époque, tout le monde se disait poète. Il suffisait d'écrire pour être poète. Le mot d'écrivain n'était pas répandu, ni même utilisé. La Fontaine est poète, c'est vrai, et il l'est durant la grande variété et diversité de sa production, durant une vie très longue. Il est né en 1621, mort en 1695. Il a cette originalité parmi les auteurs du XVIIe siècle, ses contemporains, d'avoir écrit pendant longtemps. Vous savez, Racine n'a écrit pendant une décennie, La Fontaine a écrit pendant quatre décennies. Molière n'a écrit que des comédies, La Fontaine a écrit beaucoup de choses diverses. Un jour, j'avais fait le compte, je ne sais pas si je peux me permettre de vous le donner, il y a quand même 240 fables, 64 contes, un roman mêlé de prose et de vers. Ah ouais, là, il y a un peu de vers quand même. Une idylle héroïque, deux livrets d'opéra, deux tragédies, une lyrique et l'autre inachevée, deux comédies, un ballet comique, les fragments d'un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques en vers, un poème chrétien, deux paraphrases de textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, des odes, des ballades, des madrigaux, des sonnets, des chansons, des épithalames et des épigrammes. Et j'ai sous les yeux, j'ai ouvert, alors complètement par hasard, parce qu'on va le dire à nos auditeurs, j'ai les œuvres de La Fontaine sous les yeux, j'ai ouvert dans ces œuvres diverses et je trouve une ballade sur la réparation du pont de Château-Thierry adressée à son mécène, le surintendant Fouquet, dont le refrain est « l'argent surtout est chose nécessaire », ce qui est une manière de gérer les affaires locales, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, une ode anacréontique, ce qui est très chic évidemment, mais à Madame la surintendante sur ce qu'elle est accouchée avant terme dans le carrosse en revenant de Toulouse. Ce qui prouve que tous les sujets sont possibles lorsque est un grand poète.
Mais il n'a quand même pas écrit autant que Molière.
Il a écrit énormément. Si, si, il a écrit énormément. Molière a écrit 30 comédies, une trentaine de comédies. La Fontaine est l'auteur de la diversité. et il a écrit presque toujours en vers les deux seules œuvres qui sont en prose. Mais les deux vers sont une relation de voyage vers le Limousin et le roman dont je parlais, enfin le récit, le conte mythologique des amours de Psyché, qui est un de ses grands chefs-d'œuvre. Mais d'une façon générale, un peu comme Victor Hugo, il pensait en vers et donc tout ce qu'il écrivait, tout ce qu'il disait était versifié.
Mais au sens où on l'entend aujourd'hui de ce mot poète, est-ce que vous diriez qu'il est avant tout un poète avant d'être un idéologue, parce que c'est aussi un penseur à part entière, La Fontaine, Patrick Dandré.
Alors, tout à fait, et je dirais même que ça va très loin dans la mesure où il pense à travers l'image, il pense par l'image, ce qui est la définition même de la poésie. La poésie, c'est faire danser le concept, c'est-à-dire que ce n'est pas revêtir de jolis mots des idées que l'on a déjà, c'est enclencher par les mots les idées qui vont venir. Vous savez même qu'à cette époque, on pratiquer en cas de difficulté d'inspiration une méthode qui consistait à prendre un dictionnaire de vers, ça s'appelle des bourrimés, et à essayer de trouver des mots qui pourraient convenir à ces rimes. Et donc, on finissait par penser à travers les vers. Et de ce point de vue, oui, c'est un immense poète dans la mesure où il a l'art, alors le fondement même peut-être de son art est un art du décalage de ton, qui fait que toute chose par lui est traitée en un léger second degré. Alors il emploie des mots comme badinage, gaieté, enjouement, qui est peut-être le terme le plus significatif pour unifier son œuvre, un mot un peu perdu. J'ai le goût des mots perdus de nos jours. L'enjouement, c'est un poète enjoué. Et dans cet enjouement, il y a un art d'approprier un immense bagage culturel, celui de toute l'Antiquité, des gens un peu plus récents aussi, les Italiens de la Renaissance, de l'acclimater cela au public de son époque. Et donc c'est un poète en ce sens aussi qu'il n'est pas perdu seulement dans ses rêves, mais qu'il a toujours un immense souci de son public.
Alors vous l'avez dit, il est né le 7 ou peut-être le 8 juillet 1621, il y a une incertitude sur ce point, à Château-Thierry, et il a toujours voulu être poète, même s'il était davantage destiné, et même s'il allait devoir s'occuper de la charge des eaux et forêts de Château-Thierry, Patrick Dandré.
Je ne vous garantirai pas qu'il a toujours voulu être poète. D'abord, nous allons parler d'un homme dont nous ne savons rien. Vous savez, nous sommes au XVIIe siècle. Vos trois émissions précédentes, c'était sur un auteur encore vivant, sur un auteur du XIXe et un du XXe. Bon, et déjà, je me souviens, un de vos invités sur Proust, il y a trois semaines, a dit « Chez Proust, je n'ai pas moi ». Chez La Fontaine, c'est encore plus. Donc, nous ne savons pas grand-chose de sa biographie. Ce sont quelques actes notariés. Nous avons quelques lettres, mais assez limitées. Peu d'informations, donc, et de la parure et de la parade. Pas de brouillon. Vous savez ce que disait Jean-Louis Guez de Balzac, un écrivain de début du XVIIe. Il disait « Montrer ses brouillons chez un écrivain, c'est aller visiter ses amis en robe de chambre ». Alors, pas de robe de chambre.
Non.
Donc, l'œuvre, bloc aboli d'inanité sonore, qui est là devant nous. Et puis, nous devons essayer avec cela de rétablir l'homme. Alors, beaucoup de gens l'ont fait avant nous. David Lafontaine, il y en a beaucoup. Un très brillant jeune chercheur qui s'appelle Damien Fortin a présenté ainsi une thèse de 1500 pages sur les vies de Lafontaine jusqu'à Sainte-Beuve. On en a écrit énormément, elles sont toutes légendaires. Enfin, légendaires.
Parce qu'elles se répètent, elles se reprennent les unes.
Elles se reprennent,
elles
sont pleines d'anecdotes. Et d'anecdotes qui visiblement sortent de l'œuvre. Et comme on explique l'homme par l'œuvre et qu'après on va expliquer l'œuvre par l'homme qu'on a réinventé à partir de l'œuvre, il y a un certain effet de tautologie.
Oui, donc, mais nous, c'est une émission biographique qu'on fait tous les lundis. Alors, comment va-t-on faire, Patrick Dandré? On est quand même obligé de dire deux ou trois choses
bien
que l'on
sûr.
Sait.
Nous allons rêver. Nous allons rêver l'homme qu'il fut. Et quand vous me dites poète dès le début, ce que je sais, c'est qu'il est sorti de Château-Thierry après ses études secondaires, dans les années 35-37, 1635-37, et en 41, il entre à l'oratoire. Ce qui est stupéfiant, parce qu'il est l'aîné d'une famille, en voie d'annoblissement, une famille de marchands, des gens qui commençaient peut-être à pouvoir acquérir le titre d'écuyer, on le lui reprochera, pas par vanité, parce que ça permettait de payer, de pas payer d'impôts, et on le voit entrer dans un ordre.
Vous voyez, un ordre religieux. C'est pas n'importe quel ordre, parce que c'est un des ordres les plus rigoureux de Paris, un ordre qui estime pouvoir montrer la voie aux autres prêtres de Paris et de France par, finalement, leur rigueur, Patrick Dandré.
C'est cela. C'est un ordre de la contre-réforme, c'est-à-dire que c'est un ordre militant. Et c'est un ordre qui, il faut y prendre garde, formait beaucoup de professeurs. c'est-à-dire de gens qui vont avoir vocation de porter une parole. Et il y a peut-être là, alors vous voyez, je contesterai peut-être l'idée qu'il fut toujours poète, mais je pense qu'il a toujours été conteur. Parce que ça, on est comme ça. Et il y a une unité dans son œuvre qui est le ton du conteur. Et le personnage dont nous allons parler, avec quelques dates, c'est vrai, quelques actes, mais sans pouvoir rétablir vraiment sa personnalité, c'est un personnage qui est occulté par le personnage du conteur. Et vous savez qu'un conteur, c'est quelqu'un qui se montre, qui est présent et qui nous fait croire à ce qu'il nous dit qu'il est.
Patrick Dandré, avant ce passage très étonnant dont on va reparler sans doute dans les ordres, peut-être pourrait-on dire un mot de la formation de La Fontaine, une formation en province, à Château-Thierry, à la campagne presque, avec ce père qui est en effet en charge des eaux et forêts. Est-ce qu'il y a un rapport avec la campagne chez La Fontaine qu'on pourrait sentir suite à ces années de formation?
Ah, la nature.
C'est un cliché, la nature chez La Fontaine, c'est ça?
C'est un grand problème. C'est-à-dire que il y a d'un côté Château-Thierry, la maîtrise des eaux et forêts, qui entre nous est une charge de justice. C'est-à-dire qu'on s'occupe du cadastre.
Mm-hmm. On va pas se promener dans la forêt.
De temps en temps, on est obligé pour vérifier les bornes. Mais si vous voulez, peut-être qu'on regarde moins les oiseaux, les fleurs et les arbres que l'on ne s'occupe de les compter.
On peut faire les deux en même temps.
Donc il y a ce côté, cet aspect nature, oui, c'est vrai. Puis d'un autre côté, il y a les 27 000 livres de la bibliothèque de Fouquet qui deviendra son protecteur pendant quelques années. J'anticipe, excusez-moi, mais avec La Fontaine, on est toujours à linéament et à méandre. Et donc, entre le livre et la nature, je dirais qu'il y a une cristallisation, peut-être une étincelle qui se produit, vous voyez. Mm-hmm. Et il voit la nature, d'après les livres, peut-être autant que... Alors, on pourrait dire qu'il vérifie, si vous voulez, que le livre est vérifié par des sensations d'enfance, peut-être, des sensations de jeunesse. Les poètes sont poreux, hein, et que c'est cette porosité qui lui permet, lorsqu'il écrit les fables, d'esquisser une silhouette, de formuler une image, mais en trois mots, vous voyez, cet art de l'esquisse, qui est quand même un grand talent de poète, mais dont le secret reste les mots. Les mots qui sont parfois un peu une manière d'occulter le regard même. Les mots qui donnent à voir, mais ça ne veut pas dire que l'on a vu. C'est tout le problème de ce qu'est un poète. C'est souvent plus un inductif qu'un déductif.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même dans ces jeunes années, et à l'école par exemple, on sait pour le coup, Patrick Dandré, ce qui était étudié à l'époque dans les petites classes, et il y avait notamment Ésope et les apologues, les fables. Voyez-vous là, peut-on y voir quand même une formation à celui qui deviendra bien plus tard fabuliste?
En effet, on étudiait depuis le premier siècle de notre ère, depuis la seconde sophistique, dans ces manuels pour les collèges, ou du moins pour les écoles de l'Antiquité qui s'appelaient les progymnasmata, les fables d'Ésope étaient le premier niveau de l'éducation. On pratiquait sur eux des exercices de réduction, d'étoffement, de décalage de style. C'était des objets pour travailler la langue. Et il y a un rapport entre la fable et la langue. De là à dire...
Lequel ?
Un rapport qui est celui de la fluidité et de l'assouplissement. C'est-à-dire que la fable aidait à écrire, si vous voulez. C'était un peu comme dans l'enseignement d'il y a quelques décennies, ces dictées tirées des lettres de Montmoulin sur lesquelles on procédait à des analyses grammaticales. Alors, est-ce que cela insufflait dans l'esprit des élèves la beauté de la Provence? Je n'en sais rien. En tout cas,
oui, c'était... bien sûr que oui, Patrick Dandré, c'est évident.
C'est évident. Bon, alors, il y avait cela, mais cela dit, nous suggérons, parce que nous ne savons rien de ces études à Château-Thierry, hein, nous ne savons rien de ces études à Paris. On voit apparaître un jour le titre d'avocat, alors on dit, tiens, il a dû fréquenter la faculté de droit. Nous ne savons pas laquelle, nous ne savons pas quand. Si c'était avant ou après l'oratoire.
Est-ce qu'on sait davantage ce qu'il faisait en dehors de l'université Parce qu'on dit que quand même, ces premières années à Paris, avant d'entrer à l'oratoire, c'était des années très joyeuses, des années avec les amis, des années de sortie quand même beaucoup.
Bien sûr, avant et surtout après l'oratoire. Vous savez ce qu'il a dit de l'oratoire ? Il a dit que le père d'Aymar lisait son bréviaire et que lui lisait l'astrée. Visiblement, sa vocation était ambiguë. Et d'ailleurs, toute sa vie sera en sinusoïde entre le religieux et le, comment dirais-je, l'hédonisme. Oui. J'ai coutume de dire de lui, comme poète, que c'est un hédoniste inquiet. C'est-à-dire un homme qui aime le plaisir, mais qui en même temps n'est jamais en place et de temps en temps revient vers une religion assez janséniste.
Il a peur d'aimer à ce point le plaisir ?
Disons que c'est une époque où on fait un peu peur aux gens qui aiment le plaisir et d'autre part, il se peut qu'il ait eu un goût de la solitude et de la retraite qui apparaît dans son hédonisme et notamment dans certains textes, même si c'est un peu conventionnel, un peu convenu. Mais ce goût de la retraite qui a pu le porter à cet ordre, qui était un ordre quand même assez austère. Et qui...
C'était aussi un peu la campagne à Paris, à cette époque-là, l'oratoire, non ?
Oui, vous savez...
C'était très calme, très tranquille.
Oui, c'était tout près du Louvre, on ne peut pas dire que c'était particulièrement la campagne, non, il y avait deux maisons, mais enfin, celle où il était le plus, je crois que c'était celle du centre de Paris. Non, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, dès qu'il est sorti de l'oratoire, il entre dans une compagnie de joyeux amis, mais qui sont des littérateurs, tous. Bon, des gens comme Ménard, comme Talmant des Réaux, comme Patru, et puis des plus jeunes, où on va trouver des noms plus connus, comme Paul Pélisson, qui l'attirera, qui sera de ceux qui vont l'attirer chez Fouquet. Et il y a dans cette cellule, en somme, qui se réunit dans un cabaret, à la table ronde, et qui s'appelle les Palatins, par allusion au monde, justement, de la table ronde médiévale, il y a une intense activité de création culturelle, dirais-je, de création poétique, littéraire, à travers des petits genres. Et autant il avait formé sa langue, peut-être, dans Ésope, comme nous le lisions tout à l'heure, autant là, il va former sa plume de poète.
Rien de plus connu que la vie de La Fontaine. Ce que je vais vous en dire ne vous apprendra rien de nouveau, mais vous ne m'en voudrez pas de vous le dire au contraire. Je serais impardonnable de vous raconter la vie de Guizot ou de Mademoiselle Georges sans vous apporter des détails nouveaux sur la façon dont le premier comprenait ses relations avec Louis-Philippe et la seconde, le baise-main de Napoléon. Mais il y a dans la vie de La Fontaine un charme qui ne permet pas au biographe de la modifier, pas plus que le conteur ne modifie peau d'âne ou le chaboté, et de même que les enfants obligent le narrateur de ses contes à ne pas s'écarter d'un pouce du récit habituel, trouvent leur joie à écouter de nouveau ce qu'ils ont entendu 100 fois. Je sais que vous serez enchantés d'écouter des anecdotes dont je n'ai pas découvert ni inventé une seule. Vous les aurez toutes, y compris celle de La Fontaine rencontrant son fils, parlant 2 heures avec lui et charmé par ce jeune homme, demandant à un ami qui il était, jusqu'à celle des bottes blanches, du chapeau blanc que La Fontaine, allant à un rendez-vous, prend une nuit pour traverser Château-Thierry sans être remarqué, et qui en fait un météore éclatant, car il avait oublié que c'est le clair de lune. Il est impossible de raconter cette vie autrement que comme une épopée de la simplicité et de la distraction. Impossible, comme on le fait pour les autres écrivains, de l'étudier en consacrant un chapitre à l'homme, un autre au sage, un autre au courtisan ou au poète, tant l'essentiel de cette vie est d'avoir été une et simple.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de La Fontaine avec vous, Patrick Dandré. Alors si on devait résumer, on pourrait dire qu'après les joyeusetés de la vie d'étudiant, était venu le temps de l'austérité à l'oratoire, d'ailleurs sur un véritable coup de cœur, une véritable envie. Et puis ce sont de nouveau les plaisirs du monde, mais avec une constante aspiration, vous le disiez, à la solitude. Et cela se terminera par une conversion finale à la religion chrétienne, à sa mort. Est-ce que c'est un bon résumé, finalement, celui que vient de faire Giraudoux, dans un texte qui était lu là par François Perrier, cette idée qu'au fond, c'est une vie de simplicité. La vie de La Fontaine, c'est ça.
Oui, c'est une simplicité complexe. C'est-à-dire que, comme disait l'autre, il a mis son talent dans sa vie, mais il a mis son génie dans son œuvre. De cette vie, nous ne savons pas grand-chose. Nous déduisons. Regardez, par exemple, ces bottes blanches, dont on dit « Ah, les tourdines !» Bon, les bottes blanches, c'était un signe d'élégance. Ça signifiait qu'on avait suffisamment d'argent
Donc, il n'était pas étourdi, La Fontaine.
Et de voitures pour... pour ne pas salir de boue ses bottes. Et donc, il y avait des gens même qui se les blanchissaient à la craie pour donner l'impression qu'ils avaient des bottes de cuir blanc, ce qui est particulièrement difficile, effectivement, à obtenir. Étourdi, je n'en sais rien. Là encore, c'est une image qui a été cristallisée autour d'un mot, le bonhomme, c'est-à-dire un personnage modeste, un peu loin des choses. Son écriture est une écriture de l'écart. Il est toujours dans, je le disais tout à l'heure, dans le décalage. Donc cela peut donner l'impression de l'étourderie. D'autre part, les sujets auxquels il s'intéresse sont des sujets un peu décalés, des sujets parfois en miniature. Hein. Une fourmi qui tombe dans l'eau ou boit une colombe, ça ne fait pas très sérieux. Donc on peut penser qu'il y a cette dimension d'étourderie. Ensuite, toutes ces anecdotes sur son étourderie, est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien.
Cette histoire avec son fils, oui. Qu'il n'aurait pas reconnu, est-ce que vous... Vous pouvez croire une seconde que c'est vrai ?
Ah non, c'est totalement topique. Cela, ça fait partie des choses que l'on peut d'ailleurs retrouver ailleurs. C'est le monde de l'anecdote qui commence à apparaître au XVIIe siècle. Il y a même des recueils que l'on constitue, qui s'appellent des recueils d'Anna, du mot anecdote, Anna, les débuts. Et on établit ainsi des ensembles d'historiettes plaisantes. Bon, qui sont du même ordre que de nos jours ces revues qui vous racontent sur les stars ou sur les grands ou sur les princes.
Donc là, on répète en fait ce qu'on répétera de Closer dans 100 ans. Quoi. C'est à peu près ça qu'on
La différence que les gens dont parle Closer n'ont peut-être pas écrit une œuvre qui prête à cela et qui crée ce personnage un peu particulier qui, je vous le disais, celui du conteur dans le conte. Il y a toujours une dimension de rêve et de merveilleux, donc d'extraction hors du monde. Et en même temps, La Fontaine est un poète extrêmement attentif. Le peu de choses vraies que l'on ait, ce sont ses préfaces, où il s'interroge sur les œuvres qu'il a écrites, sur leur capacité d'atteindre le succès, et il y tenait, parce qu'il n'était pas riche. Et donc, on s'aperçoit à ce moment-là d'une attention aux détails, d'une infinie précision. Il tient les deux bouts d'une chaîne énorme, si nous y pensons, une chaîne immense. D'un côté, l'Antiquité, et de l'autre, un public qui aime la mode, qui change. Il le dit, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, de la nouveauté et de la gaieté. Mais en même temps, dans la préface des fables, il écrit « Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. » C'est-à-dire qu'il choisit une écriture qui est d'une extrême sophistication, et donc d'une extrême précision. D'ailleurs, écrire tant de vers, il faut être précis. Mais avec, de temps à autre, des effets d'échappée belle. Par exemple, c'est l'un des seuls poètes français à avoir oublié de faire rimer un de ses vers. Dans une de ses fables, il a corrigé visiblement...
Ah, si c'est pas de l'étourderie, ça...
Bah, oui, n'est-ce pas, hein ? Alors, ou bien c'est de l'étourderie, ou bien c'est d'une hardiesse inouïe. Mais c'est un mélange. Et cette étourderie procède peut-être du fait qu'il a appliqué son attention à autre chose. Et il y a, je pense, cette volonté de tenir des lieux tellement éloignés, des objets tellement loin les uns des autres. Il faudrait presque envisager, je ne sais pas si nous en avons le loisir, les choses d'assez haut. Vous savez, c'est le dernier des poètes de la Renaissance. Et c'est le premier des philosophes des Lumières, parce que son époque, c'est la queue de l'immense évolution qu'a été la Renaissance, et c'est le début du monde des Lumières.
À ce titre, peut-être est-ce le moment de parler justement de Fouquet, parce que autour du surintendant, vous allez nous dire comment il intègre cette petite cour, en fait, cette grande cour, sans doute, qui était autour de lui. Il y a un moment de l'histoire culturelle française qui se joue, qui est une espèce de nouvelle renaissance. Et peut-être est-ce aussi un petit peu ça que vous signifiez.
Oui, c'est cela, exactement. C'est-à-dire que la Renaissance, c'est le culte des anciens, et c'est le fait de produire du neuf toujours en regardant vers le passé. C'est Janus. Et puis au XVIIe siècle, avec des gens comme Bacon, comme Descartes, comme Galilée, pardon de les citer à propos de La Fontaine, mais ils sont nécessaires pour comprendre. On crée une rupture et on pense que le passé, c'est le monde de l'erreur et qu'une vérité doit annuler ce qui l'a précédé. C'est l'ouverture aux sciences exactes, c'est l'ouverture au progrès. Et à partir de là, la mémoire, elle est reléguée à ceux qui ne sont pas dans les sciences exactes, c'est-à-dire les gens de ce que nous appelons la culture. C'est à ce moment-là qu'elle s'invente. L'idée de culture qui n'est pas l'exactitude, qui n'est pas le savoir dans ce qu'il a de pesant, mais qui est le dégagement, éventuellement mondain. Et la cour de Fouquet est une de ces instances, si vous voulez, de cet esprit nouveau qui, tout en continuant d'être dans la tradition et dans la coulée, je dirais, de ce passé et de ce lien, tout en ayant de la mémoire, le fait d'une façon adaptée à une mondanité nouvelle qui ne veut plus de pédantisme, qui ne veut plus de savoir. Un homme de la Renaissance, un poète de la Renaissance comme Ronsard, il faut des notes en bas de page pour le comprendre, parce que c'est extrêmement savant, extrêmement érudit. Au XVIIe siècle, on cache son savoir. On en a, mais on le cache. Mm-hmm. Et on le cache par élégance. C'est la naissance de l'honnête homme, qui est l'homme cultivé. C'est la naissance de la belle conversation. Mm-hmm. Ce qu'apprend La Fontaine chez Fouquet, c'est à converser. Je vous ai dit, c'est un conteur, oui, mais c'est aussi un dialoguiste.
Et vous parliez des sciences qui émergent. La Fontaine, on le sait moins, s'est aussi intéressé à des controverses scientifiques, des controverses métaphysiques. Il y a cet aspect aussi chez lui.
Il s'intéresse, alors là vous pensez évidemment au problème de l'âme des animaux, ça apparaîtra beaucoup plus tard.
Au discours à
Madame de la Sablière. Hein. Nous sommes dans une période très très éloignée de celle où le récit de sa vie nous a conduit, une période beaucoup plus éloignée. C'est un problème qui était posé depuis l'Antiquité. C'est un problème que l'on retrouve chez Montaigne, qui a été le grand informateur du XVIIe siècle. C'est une question métaphysique, et en même temps, c'est un problème tout concret pour quelqu'un qui met en scène des animaux, et qui, en les utilisant comme emblème, comme allégorie, en les utilisant comme on le faisait chez Ésope, est en train de leur attribuer la vie. Une vie qui suppose un nouveau regard, qui est un regard d'observation. Et le regard d'observation, qu'est-ce ? C'est le regard que la science nous a appris à porter sur les choses. Et l'époque de La Fontaine est une époque où l'on commence à regarder le monde. Dans le premier XVIIe siècle, la première moitié, on a un peu un modèle qui est celui du Theatrum Mundi, le théâtre du monde. Nous sommes des comédiens sous l'œil de Dieu. Avec la pliure du siècle, le théâtre du monde laisse place au spectacle du monde. Et La Fontaine est un observateur du spectacle du monde. Vous disiez étourdi, mais il sait regarder ses contemporains. Et il sait les moquer et moquer leurs attitudes, comme Molière à la même époque. Et cette notion de spectacle suppose une nouvelle économie du regard. Et cette nouvelle économie du regard fait que l'on se dit, mais enfin, les animaux ne sont-ils que des machines, comme le prétend Descartes à la même époque. Enfin, bon, c'est un excès de la pensée cartésienne, pour simplement dire que la rupture ne se produit pas entre l'animé et l'inanimé, mais entre l'animé réflexif, c'est-à-dire l'homme qui réfléchit, qu'il pense, et puis le reste qui imagine, mais qui ne sait pas qu'il imagine. Vous voyez, cette notion de conscience. Donc, c'est une espèce de déplacement de curseur.
Et La Fontaine, que dit-il à ce sujet ?
Alors, La Fontaine développe l'argument cartésien et, en face, donne des expériences, c'est-à-dire des expériences qu'il croit ou qu'il dit vécues, c'est-à-dire des animaux qui ont réussi à sauver leurs petits, des animaux qui ont montré une ingéniosité qui signifie... Et là, nous retrouvons une pensée qui est adverse de celle de Descartes, la pensée de Gassendi, des épicuriens, qui signifie qu'il y aurait des degrés d'âme, si vous voulez, et que nous arrivons jusqu'à l'âme intellectuelle, intelligente, mais qu'en dessous, il y a une âme peut-être inférieure, qui n'est pas en repli sur elle-même, mais qui est capable de comprendre un certain nombre de choses. Et puis, il s'est intéressé aussi, et je voudrais le dire ça, parce que c'est pas seulement les animaux et leurs âmes, c'est aussi de s'intéresser au quinquennat. Il fait un poème sur le quinquennat, parce que le quinquennat qui venait d'être découvert permettait de faire baisser la fièvre, et c'est un exemple de poésie scientifique. Et là encore, c'est totalement moderne, parce que c'est le goût de la science moderne. Mais c'est une très vieille tradition, la poésie scientifique. C'est une tradition que l'on trouve à la Renaissance, et chez des poètes qui ont rimé toute la zoologie, par exemple, et dans une perspective complètement différente de celle des histoires du corbeau et du renard et du fromage.
En tous les cas, ça signifie que le rapport aux animaux, il n'est pas que anecdotique, il est aussi très réflexif.
Alors, c'est un rapport aux animaux qui est à la fois hérité, avec toute la dimension symbolique et allégorique de l'animal. L'animal signifie quelque chose. Et puis, d'un autre côté, c'est une perspective nouvelle, si vous voulez. C'est faire venir dans les fables, dans la zoologie des fables, des animaux qui n'y étaient pas, les castors, le héron, enfin, des êtres nouveaux, et auxquels, dans ce cas, on peut attribuer peut-être des éléments de plus grande vérité.
Parce que sinon, les animaux sont un motif récurrent des fables à cette époque-là.
C'est-à-dire que les fables animalières ont été figées dans le corpus qu'on appelle ésopique, du nom de ce fabuliste légendaire, Ésope. Et à partir de là, il y a eu une sorte de réitération et de répétition avec des appropriations diverses. Le fabuliste latin Phèdre a orienté la fable dans la direction plutôt de la satire. On va trouver des fables de Marie de France, on va trouver des fables au XVIe siècle. siècle, qui sont plutôt des fables dispersées. On connaît celles de Marot, qui ont une vocation anecdotique, une application immédiate. On va trouver des fables savantes avec des applications morales à la volée, vous savez, pour un texte de 10 lignes, 100 lignes, où on explique ce que ça veut dire. Il y a un grand esprit dans cette époque, dans l'humanisme, qui est un esprit herméneutique, c'est-à-dire rendre compte des images. Ces gens sont obsédés par les hiéroglyphes, ils attendent Champollion, quoi. Alors ils veulent comprendre. Et l'œuvre de La Fontaine est habitée aussi par cette pensée.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Patrick Dandré, quittons quelques minutes, si vous le voulez bien, le XVIIe siècle pour nous retrouver dans les temps contemporains avec vous, contemporain capital de l'émission, Georges Marcabi, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie de l'Atelier, rue du Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil récemment sur vos rayonnages?
Bah écoutez, moi j'avais envie de vous parler d'un roman qui vient de sortir, édité chez Minuit, qui s'appelle Sigma, écrit par Julia Dex, et son troisième roman. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce qu'on parlait de La Fontaine là, tout à l'heure, on parlait de fable, de manipulation, hein, pratiquement, bah, voilà un roman sur la manipulation. Sigma, c'est une agence qui envoie des gens surveiller des artistes ou des gens parce que on ne veut pas que n'importe quelle œuvre d'art perturbe, on va dire, le commun des mortels. Et donc, on met en place des systèmes pour surveiller ces œuvres d'art. Là, on va avoir quatre personnes, un banquier d'affaires féru d'art, une galeriste réputée qui va essayer de découvrir une œuvre perdue, la sœur de cette galeriste qui elle-même est actrice, donc là aussi dans le milieu de l'art, et le mari de cette actrice qui est le confident du banquier. Vous voyez, une espèce de, là aussi, de théâtre de l'improbable. Et autour de ces quatre personnages, il va y avoir quatre agents de Sigma qui vont les surveiller et les manipuler pour essayer de remettre la main sur cette œuvre disparue qui peut perturber l'ordre établi. Voilà comment Julia Dec nous met en scène tout un petit monde où l'art peut-être peut pervertir la liberté de chacun et en tout cas donner plus de liberté que de contraintes, mmh, et donc peut être dangereuse.
Ne surveille pas les lecteurs de La Fontaine?
Et pas encore, mais voilà quelque chose qui aurait pu être mis en scène par Julia Dec dans ce roman.
Alors en réponse plus ou moins à ce livre de Julia Dec, on pourrait placer celui de Marie Darrieussecq, Notre vie dans les forêts, c'est chez POL.
Ben oui, Marie Darrieussecq, dans son dernier roman, elle nous projette dans un futur presque immédiat, on va dire, où les dernières personnes nées sont accompagnées d'un double, cloné d'eux-mêmes, qui leur servent de réserve d'organes. Hein, parce que vous avez un accident, vous manque un poumon, ben voilà, vous avez une réserve, votre clone vous attend.
C'est à peine de la science-fiction, ça.
C'est à peine la science-fiction, c'est ce que je vous dis, on est à peine là-dedans. Et là, la narratrice est psychologue de métier et donc va nous raconter sa relation à sa moitié, c'est comme ça qu'elle les appelle, qu'elle a prénommée Marie, et elle nous raconte aussi son métier de psychologue, c'est-à-dire sa rencontre avec ses contemporains qu'elle va essayer d'aider à survivre et à surnager dans ce milieu compliqué qu'est le monde contemporain. Et là, on a ce double regard en même temps de sa relation à cette moitié et à ses contemporains, et donc elle nous donne à regarder comme ça un peu le monde particulier qui est son monde. Et en même temps, elle nous parle de ça dans un milieu particulier qui est la forêt, c'est pour ça qu'on retrouve le mot de la forêt dans le titre, excusez-moi. Et dans cette forêt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des gens se sont libérés de cette contrainte, ont embarqué leur moitié avec eux et ont décidé d'essayer de vivre, eh bien, non pas comme avec leur moitié comme étant on va dire des ressources, mais plutôt des amis, quoi.
Et pour terminer, une bande dessinée, Georges Marc.
Eh bien voilà, moi j'avais envie aussi de vous parler de cette BD qui s'appelle Rougimba, édité à la boîte à bulles, avec deux auteurs, Simon Hureau, qui est auteur de bande dessinée, et Solène Bardet, qui est auteur et ethnologue. C'est un voyage, c'est un récit de voyage, mais pas que. Simon Hureau a été embarqué par Solène Bardet et sa famille chez les Himba, au nord-ouest de la Namibie, pour découvrir ce peuple premier, ce peuple semi-nomade, qui élève énormément de vaches et de chèvres dans un monde quasiment désertique, empreint d'énormes traditions. Elle embarque Simon Hureau avec lui, 5 semaines de voyage. Simon va en faire un espèce de carnet de voyage, et en même temps, cette BD, c'est aussi le récit des 20 ans de relation de Solène Bardet avec les Imba. C'est Imba qu'elle a rencontré à 18 ans lors d'un voyage, avec qui elle a une relation tellement forte qu'elle a réussi à se faire adopter par une famille Imba. Et c'est 20 ans de relation et de vie qu'il y a dans cette BD. Donc on découvre ce peuple merveilleux que sont les Imba, avec leur relation aux ancêtres, leur manière de vivre et toute leur approche très très différente du monde occidental dans lequel nous sommes. Mais malgré tout, ils sont aussi comme nous, avec les mêmes désirs et les mêmes envies.
Évidemment. Merci beaucoup, Georges-Marc, pour ces trois conseils. Et si on veut en savoir plus, on peut passer vous voir si on habite le 20e arrondissement de Paris, rue du Jourdain, à la librairie de l'atelier Métro Jourdain.
Merci.
À bientôt. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Voilà pour cette dédicace de La Fontaine, dont nous parlons aujourd'hui dans la compagnie des auteurs, dédicace à Monseigneur le Dauphin.
Poète classique français est aussi peut-être un des plus européens parmi nos écrivains du XVIIe siècle.
Oui.
Il y a chez lui, dans cette transparence, dans ce charme exquis de sa langue, une des plus parfaites qu'on ait jamais parlé, toutes les saveurs accumulées par des siècles de littérature européenne et par les différents centre de cette littérature, qui ont chacune leur propre couleur, leur propre lumière. Il est italien par l'imitation, en tout cas la transposition qu'il a faite de La Donne et de Marino. Il est italien par l'influence qu'il a reçue de la lyrique italienne et qui se sent quelquefois même dans les fables où il y a des grandes échappées lyriques. Et il est espagnol par un certain goût de la pointe, de la brièveté tranchante et de l'élégance aristocratique. Il a d'ailleurs fait souvent l'éloge de l'Espagne et du style espagnol. Il a eu, comme vous le savez aussi, de profondes affinités avec l'Angleterre, puisque un de ses meilleurs amis, Saint-Évremond, avait été obligé de s'exiler en Angleterre au moment de la paix des Pyrénées, donc vers 1660, et il a gardé avec l'Angleterre, avec le climat différent qui régnait à Londres et qui était peut-être un peu plus, moins étouffant que celui qui règne à Paris sous le ministère de Colbert puis de Louvois, des sympathies si vives qu'à un moment il a même songé dans ses dernières années à s'exiler lui-même en Angleterre. Donc vous voyez, il est à la fois dans le temps, le contemporain, comme vous l'avez dit, des orientaux, des grecs, des latins, des hommes du 15e et du 16e siècle. Mais dans l'espace, il est aussi le parent de l'Italie littéraire, de l'Espagne et de l'Angleterre.
La compagnie des auteurs. Il y a déjà un certain cosmopolitisme chez La Fontaine, comme le disait à l'instant Marc Fumaroli, et notamment dans cet univers qui est celui de la cour de Fouquet, à Vaux.
Oui, La Fontaine est un passeur. C'est un passeur entre les temps et un passeur entre les textes, donc un passeur entre les espaces. Et c'est le rôle aussi d'un poète que d'approprier des textes à son public en s'appropriant ces textes de manière à s'approprier sa personnalité. Ça fait trois appropriations. Et le lieu Fouquet, ça a été le moment de cette cristallisation. Il avait écrit avant d'arriver chez Fouquet, mais il n'a rien publié sinon une comédie imitée de Terence qui s'appelle L'Eunuque et qui est un exercice de style plus qu'autre chose, qui est quand même assez significatif puisque Terence, c'est l'élégance, c'est le modèle d'un atticisme à la française, c'est le sourire sans être le rire énorme de Plaute, c'est donc déjà une signature et la signature d'un certain goût. Et ce que va représenter pour lui le monde de Fouquet, c'est le monde de ce goût, et qui est un goût de la comment dirais-je, l'appropriation entre les contraires, de la synthèse entre les éléments.
Une esthétique du détour, hein, écrivez-vous.
Voilà, à la fois esthétique du détour et esthétique de la conciliation. C'est-à-dire que pour concilier, il faut détourner. Alors, il y a un exemple magnifique dans une œuvre qu'il écrit un peu plus tard, mais qu'il a peut-être commencé à ce moment-là, qui est justement Les Amours de Psyché et de Cupidon. Il explique que, pour ce qui est du récit, tout était déjà chez Apulée, il s'est contenté de l'imiter. Ce qui est très frappant déjà, c'est l'idée que tout est dans l'écriture. Et pour le ton, le style, il dit que rien ne lui a été aussi difficile, ce qui est étrange puisque c'est en prose. Et il explique que comme c'est héroïque, il faut un style élevé, mais comme c'est une histoire d'amour, il faut un style galant. Et le galant ne convient pas avec l'héroïque. C'est comme ça que ces gens écrivent. Hein. C'est très différent de ce que vous avez dit la semaine dernière ou la semaine avant sur des écrivains qui n'ont pas ces problèmes-là. Lui a ce problème, c'est l'adaptation du niveau de style au domaine dans lequel il écrit. Et comme il ne peut pas mélanger les deux, parce que la variété, la rupture des couleurs n'est pas élégante, il résout la solution, et ça c'est le détour, en traitant le sublime dans le ton du galant, c'est-à-dire en badinant. Mmh. Et il va pratiquer donc un récit mythologique, un récit merveilleux. Le merveilleux, c'est l'équivalent de ce que vous disiez tout à l'heure sur le fantastique et sur le roman de Marie Darrieussecq. Hein. Les hommes ont toujours rêvé. La Fontaine, c'était son merveilleux à lui, c'était une femme aimée du dieu amour et en proie à la vengeance de Vénus, les dieux, le merveilleux, la métamorphose. Et donc, il traite le sujet qui est un sujet sublime, puisque nous sommes dans le monde de l'Olympe, mais il le traite avec ce ton de badinage.
Et c'est là sa grande nouveauté ?
C'est cela, c'est l'écart, et c'est un ton d'enjouement qu'il a hérité de cet art léger que l'on avait à la cour de Fouquet, où on a écrit notamment 28 bourrimés sur un perroquet. Vous savez, on est capable de faire des choses comme ça, on écrit beaucoup sur les fauvettes, sur des animaux familiers, sur des toutes petites choses. Je vous citais tout à l'heure l'accouchement de la surintendante dans son carrosse, des choses de ce genre qui sont anecdotiques et qui procèdent de cette culture qui est celle de la préciosité aussi.
Mais l'atmosphère va changer avec la chute
bien sûr
de Fouquet. Qu'est-ce que, littérairement, et en particulier pour La Fontaine, ça modifie,
Patrick? Alors, ça modifie, je dirais d'abord économiquement, le fait qu'il n'est plus le pensionné de Fouquet, ou plutôt que Fouquet n'est plus son pensionné, puisque dans ce type de mécénat spirituel et imité du rapport de François Ier avec Marot, La Fontaine estimait qu'il était le donateur et que l'autre ne faisait que rétribuer, ce qui était quand même le don, c'était lui, quoi.
Poèmes,
et l'autre était son obligé. Et il va entrer dans la campagne de libelle, de défense de Fouquet, tout en accompagnant d'ailleurs son oncle Jeannard, qui était plus engagé que lui dans les affaires du surintendant, sur les routes de l'exil à Limoges.
Qui d'ailleurs, au passage, est celui qui l'a introduit auprès de Fouquet, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure.
Exactement, oui, qui l'a introduit auprès de Fouquet, qui était un homme de droit, hein, qui s'occupait des affaires complexes, il faut dire, de Fouquet, et qui est devenu l'avocat en même temps que Madame Fouquet s'est choisie au moment du procès du mari. Et donc, il va participer à cette défense et pour cela, écrire dans un registre beaucoup plus élevé. Il écrit une élégie et une ode. L'ode, c'est du Malherbe. L'élégie, c'est Tibulle et Properce. C'est le monde des pleurs, des larmes, mais des larmes élégantes et hautes. C'est le cri des muses, des nymphes, de veaux qui sont malheureuses. Et puis l'ode au roi, là, c'est du grand style. Et on voit très bien la malléabilité de cette plume. Et alors, il y a une hypothèse, défendue notamment par Boris Donnet, qui est un chercheur La Fontaine, que c'est à ce moment-là peut-être qu'il a commencé à écrire les premières fables et qu'il les a imitées de Phèdre, qui était un fabuliste satirique en quelque sorte, puisqu'il écrivait contre ces gens, l'homme lige, l'âme noire de Tibère, et qu'il y aurait en somme dans l'imitation des fables de Phèdre par La Fontaine autour des thèmes de l'injustice, des rois aveuglés, des mauvais conseillers, il y aurait une idée de faire servir le genre de la fable, qui est un genre de ces petits gens mondains qui ont été travaillés à l'époque de Fouquet, de le faire travailler à la défense du surintendant abattu, et que ça aurait été, en somme, la première cristallisation du projet d'écrire ensuite des fables, ce qui va devenir une véritable cascade de fables.
Mais qui ne commence à paraître qu'en 1668. Donc il ne faut pas quand même exagérer, Patrick Dandré, selon vous, la fidélité de La Fontaine à Fouquet. Il le défend dans les premiers temps, mais ensuite, bon, de toute façon, La Fontaine n'est pas forcément le plus courageux. Il ne le défend pas bec et ongle pendant si longtemps que ça.
Si vous voulez, en 1668, 1562, il est accusé d'une usurpation du titre d'écuyer. Il fait une supplique au duc de Bouillon. Et dans cette supplique, il dit des merveilles de Colbert, qui est capable de lever le procès, l'accusation contre lui. Et il laisse entendre que Fouquet était dispendieux. Donc oui, on écrivait selon les moments. Je prends toujours cet exemple lorsqu'on me demande « est-il resté fidèle longtemps ?» Pélisson, qui était vraiment le ministre des Affaires culturelles de Fouquet, hein, qui était le grand ami de Mademoiselle de Scudéry, qui est un littérateur célèbre, a fait de la Bastille après l'affaire. Mais 5 ans plus tard, on le retrouve confident de Louis XIV. Et vraiment très proche du roi, avec une entrée immédiate et directe auprès de lui, au titre de secrétaire. Donc, n'exagérons rien. Vous savez, c'est un peu comme de nos jours, les équipes politiques. Bon, quelqu'un est battu, quelqu'un, je ne sais pas moi, un procès difficile, une affaire malheureuse. Bon, ben, on reste un peu fidèle, et puis au bout d'un certain temps, ben, la vie étant la vie, on se met au service d'une autre puissance. J'ai même pour hypothèse que Les amours de Psyché, qu'il écrira donc en 68, là nous avançons après les fables, sont peut-être, qui sont enveloppés dans une promenade de 4 amis dans Versailles qui font l'éloge de Colbert, l'éloge de Versailles, des beautés de ce château. C'est peut-être une manière pour La Fontaine d'essayer d'entrer dans les grâces de Louis XIV pour devenir le précepteur du dauphin. Mm-hmm. Et vous lisiez tout à l'heure la dédicace des fables au dauphin, c'était peut-être pas tout à fait un hasard que entre la chute de Fouquet, donc 61, et puis 68, on voit La Fontaine obtenir le droit de dédier à cet enfant qui est désormais l'objet de toutes les attentions de la France et pour lequel on va même créer une collection de livres savants, Ad usum Delphini, à l'usage du dauphin. Et ce n'est pas un hasard si La Fontaine peut espérer, en lui dédiant ses fables, entrer, disons, dans le groupe des intellectuels autour de Bossuet qui vont devenir les maîtres du jeune dauphin. Après tout, il avait bien voulu être professeur du temps de l'oratoire. Alors, c'est peut-être là l'occasion.
Donc 1668, Patrick d'André, c'est la publication des premières fables. Oui. On se doute qu'en effet, il les écrit, il les rédige depuis longtemps, puisqu'il y en a 120. Oui. Et que pendant les 25 années suivantes, il en ajoutera finalement à peu près autant.
Autant, oui. Et en phases successives. Et alors ça, c'est une chose très étrange. Souvent, on résume l'œuvre de La Fontaine à la fable, ou bien on se dit, il a cherché, et puis après, il a trouvé la fable, il ne s'y est jamais arrêté. Et il a toujours continué d'écrire autre chose, et d'écrire dans des genres très divers, et dans une lyre et un style assez divers, où ce que l'on reconnaît malgré tout, je crois toujours, c'est un certain ton, une certaine fluidité du style, quelque chose de l'ordre d'une connivence et d'une certaine lumière que j'attribue donc au ton du conteur. Si je me permets de le faire, c'est que Madame de Sévigné l'a dit avant moi, elle était ferrée dans ces domaines, et elle disait à propos d'un recueil qui était paru et où il y avait quelques contes et d'autres choses qui lui plaisaient moins, elle disait « il ne doit jamais sortir du talent qu'il a de conter ». Oui. Mmh. Cet art du conteur, c'est-à-dire de vous emmener à la fois dans le plaisir d'un songe, d'un monde de fiction, et en même temps de vous faire réfléchir, parce qu'un conte, ça suppose un décryptage.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Il y a quelque chose dont on a du mal à comprendre exactement où se situait La Fontaine, c'est cette question justement de la modernité. Il y a évidemment la querelle des anciens et des modernes, Patrick d'André, on sait que Molière s'était plutôt déclaré pour les anciens, mais par bien des aspects, on pourrait dire aussi que toute son œuvre prouve qu'il est un moderne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ?
La Fontaine est un partisan des anciens, il est la coqueluche des modernes. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, il va être vraiment l'homme, le poète du style rocaille, même des arts décoratifs. Il plaît énormément aux modernes et il est un exemple que donnent les modernes du génie du siècle de Louis XIV, mais il a toujours revendiqué ce retour vers l'Antiquité, cette maîtrise. Il en est même à disserter pour savoir si Homère est supérieur à Virgile, et il, selon un texte que nous avons de Brienne, peu importe, il aurait dit que Homère était quand même supérieur parce que Homère n'imitait personne et que Virgile imitait Homère. Mm-hmm, et que donc nous ne faisons qu'être en décadence, en somme. Vous voyez, c'est une vision un peu régressive. Il y a les grands anciens et puis nous sommes des tout petits enfants. Mais alors, il y a une chose merveilleuse, c'est qu'à la même époque, on voit Malebranche écrire en reprenant la même image. Il est normal que nous soyons plus intelligents que les anciens parce qu'eux n'étaient que des enfants par rapport à nous, puisque l'humanité était dans l'enfance. Ce qui prouve d'ailleurs qu'une analogie, on peut l'inverser totalement. Et donc ce rapport entre l'enfant et l'adulte, c'est un rapport très, très étrange et dans lequel La Fontaine se trouve pris. Son inspiration est une inspiration assez moderne. Il imite l'Arioste, il imite Boccace, il s'intéresse à la littérature italienne du XVIe siècle, Marcus Marlory le rappelait. Il a lu, par exemple, Le Songe de Polyphile, ce monde de rêve qui a guidé cet ouvrage sur un rêve éveillé, qui est déjà du Novalis ou du Nerval, et qui a guidé Le Songe de Vaux, qu'il a composé par fragments à l'époque de Fouquet, et qui ne paraîtra qu'au moment dont nous parlons, dans les années 69-70. Donc il y a un côté, effectivement, inclus dans son temps, mais son idée, c'est de mettre à la portée, et je dirais dans le contexte de la modernité, les grands textes qui font la mémoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est à la fois un auteur d'une infinie modernité, mais qui est bourré de mémoire. C'est un musée ambulant, si vous voulez. Mais c'est un musée qui ne craint pas d'avoir une section médiatique et informatique. Vous voyez. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux, une présence dans le présent, mais dans un jeu de décalage. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est d'être décalé dans l'extrême modernité et contemporanéité.
Et alors les illustrations qui accompagnent toujours les fables, en particulier peut-être les contes aussi, mais enfin on connaît surtout celles des fables, est-ce que là il y a un élément soit de modernité, soit au contraire de tradition?
Alors c'est un élément de tradition, la fable est depuis toujours un genre qui a vocation à être illustré. Non, depuis toujours j'exagère, il faut moins que l'imprimerie existe ou auparavant que l'on puisse mettre des enluminures. Mais la fable, c'est vrai, c'est un genre illustré d'ailleurs qui participe, qui entre en réseau avec d'autres genres comme l'emblème, qui est un genre également avec une image au centre. Alors l'intérêt de l'image chez La Fontaine, de fait les recueils de fables, il faut les publier avec les images, c'est l'espèce de dialogue contradictoire, et là encore nous sommes entre antiquité et modernité, votre question tombe vraiment à pic, parce que on voit bien que La Fontaine a une telle puissance d'imagier que lorsque nous lisons le texte, nous n'avons pas envie de voir l'image. Mmh. Nous n'avons pas envie parce qu'il s'y substitue.
On l'a déjà, en fait.
Voilà, et c'est donc un rapport de concurrence qui naît, là où devait intervenir, au contraire, un rapport de prolongement. Parce que autrefois le récit, enfin dans la perspective ésopique, doit être dense et serré. Mais vous savez, là encore, c'est toujours cet art de l'équilibre. Je crois qu'il y a une formule en ce moment très à la mode dans notre présence et en même temps. Alors La Fontaine, sa formule à lui, c'est en récompense. C'est-à-dire, j'ai compensé. Alors, il explique, je ne peux pas être aussi laconique que les anciens, quelle élégance, mais comme je ne peux pas, j'ai égayé. Vous voyez. Alors il compense. Et dans ses compensations, il y a la capacité de donner à voir. C'est un conteur qui sait nous aiguiser l'œil.
Alors, il écrira des fables jusqu'à sa mort, 12 volumes de fables. Les dernières années, il s'essaye aussi un petit peu à la tragédie. Et puis, il y a cet épisode du reniement de ses contes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
cet épisode-là ? Oui, alors les contes, c'est toute une affaire. Il a commencé à en publier en 64, donc avant les fables. Il a publié des salves successives. Et en 74, 10 ans après, il a fait son recueil le plus osé. Alors, ne croyons pas, enfin, il ne me semble pas que c'est pour le plaisir d'être gaulois ou d'être...
Grivois.
Rabelais avait fait beaucoup plus, les gens du XVIe aussi. Non, c'est un exercice d'écriture qui consiste à savoir comment on peut parler de tout en voilant de gaz les choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'est-à-dire que c'est toujours l'art de la suggestion. Mais c'est la même chose que le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, qui est une suggestion aussi, où l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour, où vous avez le clapotement de l'eau. C'est l'art de la suggestion, sauf que là, on suggère des sexes masculins ou des charmes féminins. Alors, ces contes devenant de plus en plus osés, le recueil de 74 va être censuré. Au moment de l'entrée à l'Académie en 83, on le lui reprochera, il y aura un vrai débat et Louis XIV suspendra la consommation de son élection jusqu'à ce que ce soit tassé parce que les moralisants, les pudibonds, les puritains trouvaient qu'on ne pouvait pas élire quelqu'un et qui avait écrit des contes.
Parce que La Fontaine va vivre assez mal.
Voilà ce qui sera. Oui, enfin, vivre, c'est mal, on n'en sait rien, vous savez. On peut.
On imagine.
Ben voilà, on nous l'a toujours dit, parce qu'évidemment, c'était plutôt désagréable. Mais bon, après tout, nous n'avons pas de texte là-dessus. Alors, il faut dire qu'il était élu au fauteuil de Colbert, ce qui était piquant également, pour un ancien protégé de Fouquet. Tout ça, vous savez, tout ça, ça s'oublie un peu. Et puis donc, à la fin de sa vie, il sera entre les mains d'un confesseur austère, un oratorien, tenez, encore l'oratoire qui le poursuit. Et ce confesseur obtiendra de lui le reniement public de ses comptes devant une délégation d'académiciens. Mais il avait écrit que, à cette époque-là, il était un peu fatigué, il n'avait plus la même ardeur qu'avant. Je crois qu'il avait la tête un peu fragile, donc il était impressionnable.
Et des contes, nous parlerons demain. Ce sera avec Mathieu Berman, auteur des contes et nouvelles en vers de La Fontaine chez Classique Garnier. Il me reste à vous remercier chaleureusement Patrick Dandré pour ce parcours dans la vie et l'œuvre mêlée de La Fontaine. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de la Société des Amis de La Fontaine, que vous avez publié en 1995 parmi vos nombreux travaux sur l'auteur des fables, le livre intitulé La Fontaine ou les Métamorphoses d'Orphée, livre qui a été réédité en 2008 chez Gallimard dans la collection Découverte. Tout de suite sur France Culture, vous retrouvez la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous laissant porter par l'âme russe en ces heures commémoratives, sans refaire la révolution quand même, on peut y retourner une fois encore. On peut risquer Tsvetaïeva. Bon, elle a pas fait la révolution, elle est pas révolutionnaire, mais elle a quand même bousculé la poésie russe. Elle est morte en 1941, pas trop encline à demander les grâces du régime qu'il ignorait d'ailleurs. C'est vrai qu'en 17 déjà, elle préparait l'exil inévitable. C'est une immigrée, cette Aïeva. D'ailleurs, Zeno Bienhue en parle bien dans la préface de Insomnie parue chez Gallimard. Une voix, une simple voix d'être humain, mais si pleinement humaine qu'elle apparaît comme le contraire de notre inhumanité croissante. Une voix de femme par surcroît, et même de poète, à peine audible dans le fracas du XXe siècle. Une voix qui a parlé dans l'ombre des événements connus, dans l'ombre de l'actualité, mais une voix qui finit par ouvrir des brèches dans l'histoire. Une voix qui parle pour dire notre vraie voix, et pour que l'histoire peut-être écoute autre chose que son propre tumulte. Une voix naturellement incendiaire. Il y a au monde des hommes en trop, des superflus pas dans la norme. Sortis des dictionnaires et répertoires, ils ont une fosse pour demeure. Il y a au monde des gens creux, muets, on les rejette comme du fumier. Ils sont un clou dans la chaussure, ils éclaboussent vos pans de soie. Il y a au monde des menteurs, ou invisibles marqués de lèpre, ils sont au monde semblables à Job, envieux de son destin s'il le pouvait. Nous, les poètes, nous rimons avec paria. Mais sortis de nos berges, nous disputons leurs dieux aux déesses et aux dieux des vierges princesses, écrit le 22 avril 1923. Une voix qui aime sans relâche et sans fin, une voix qui a payé terriblement le prix à payer. Une voix pour nous révéler notre propre pouvoir, une voix qui rend la vie incandescente. Où sont les cygnes ? Les cygnes sont partis. Et les corbeaux ? Les corbeaux sont restés. Où sont-ils partis ? Là où s'en vont les grues ? Pourquoi sont-ils partis ? Pour n'être pas plumés. Et papa, où est-il ? Dors, dors, le sommeil sur son coursier des steppes va venir nous chercher. Où nous emmènera-t-il ? Vers le don des cygnes. Là, tu le sais, se trouve mon cygne blanc. Le 9 août 1918. À toutes les époques, des acteurs oubliés émergent du passé, non comme des ancêtres, mais comme des proches. Citation de Gréhil Marcus. Poème écrit à Boris Pasternak, distance des mille des verstes. Nous qu'on disjoint et qu'on disperse sur terre, chacun à un bout, pour ne plus déranger du tout. Distance des verstes l'espace, nous qu'on dissocie en disgrâce, nous les deux bras qu'on crucifie sans savoir que ce nous, ainsi, nos nerfs et nos inspirations, pas de discorde ou de dissociation, mais disloqués, un mur avec nous séparés comme deux aigles. Belle traduction, très sonore.
Belle traduction en effet. Merci Jacques Bonafé. Cette semaine, vous nous lisez des poèmes de Marina Tsetaeva.